Vous écoutez RTL.
Bonjour, on se retrouve dans le meilleur de Confidentiel spécial été sur RTL. J'espère que vous allez bien et que vos vacances, si vous en avez, se déroulent parfaitement. Une heure ensemble sur les traces d'une personnalité, une trajectoire qui, comme toutes les trajectoires, n'est jamais une ligne droite, mais bien souvent une suite de virages, de retours en arrière, de succès et de désillusions, de mirages et de secrets. Le chanteur dont je vais vous raconter la vie était sans doute l'archétype de la pop star. Il en avait tous les attributs, la voix, l'allure et un immense talent, une ascension éclair, mais aucune arme pour le protéger des attaques. Rien pour éviter le soleil brûlant de la célébrité. Voici l'histoire de l'homme qui ne voulait pas être une star, George Michael, dans le meilleur de Confidentiel. C'est tout de suite sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel, George Michael.
George Michael avait un frère jumeau, lui-même, en tout point identique, en tout point différent. Le premier fut un chanteur à paillettes pour adolescentes au bord de l'évanouissement. Le second, un crooner partagé entre l'ombre et la lumière, cultivant des secrets qu'il croyait inavouables et qui un jour allaient l'emporter. Georgios Kyriakos Panayotou voit le jour le 25 juin 1963 à East Finchley, un quartier sans charme du nord de Londres. Seul garçon d'une fratrie qui compte déjà deux filles, Yoda et Mélanie. Celle-ci sera longtemps sa coiffeuse et sa maquilleuse sur les tournées et restera jusqu'à la fin aux côtés de son frère. Georgios n'est pas encore George et Panayotou ne s'appelle pas Michael. Ce petit garçon brun et empâté a pour père un restaurateur grec chypriote arrivé en Angleterre dans les années 50. Kyriakos Panayotou s'est rapidement fait appeler Jack Panos. C'est un homme à la stature imposante qui, lors des mariages traditionnels grecs, captive ses enfants en dansant avec une bouteille sur la tête. Il veut éduquer son Georgios à la dure, lui inculquer les vertus essentielles du travail et de la famille. Il n'y parviendra pas et finira par porter un regard de plus en plus sévère sur ce fils unique. George Michael dira qu'avoir son propre père comme adversaire fut un formidable challenge, la plus belle motivation pour devenir un artiste à succès. Si le petit George Michael est rejeté par son père, il peut aller se réfugier dans les jupes de sa mère, Leslie. Cette Britannique, ancienne danseuse, adore son fils. Elle a vite compris que George, Georgios, était un garçon timide et secret qui ne serait jamais le macho espéré par son père. Un fils qui préfère écouter à la radio les tubes de ce tout début des années 70. Plutôt que d'apprendre ses leçons, qui aime aussi chanter, imitant devant un miroir Peter Gabriel ou David Bowie. Pour ses 7 ans, sa mère lui offre un magnétophone, la chanson, la musique et bientôt un violon vont devenir son unique univers. Celui qui s'appellera un jour George Michael va toujours être un élève moyen et distrait. À l'adolescence, il se retrouve à la Bushley Mid School. Il fait ici une rencontre qui va changer sa vie. Ce collégien, qui le prend sous sa coupe et le baptise aussitôt Yog, plus facile que Georgios Panayotou, s'appelle Andrew Ridgeley. Comme son copain grec, Andrew est un fils d'immigré qui est en guerre contre son père et rêve lui aussi de musique avec l'idée de former un groupe. Les deux copains s'entendent comme larrons en foire. Ils délaissent vite les études pour les boîtes de nuit où ils dansent jusqu'à l'aube. Le modèle de George Michael est alors John Travolta dans Saturday Night Fever et grâce à ce film, il s'est soudain senti pousser des ailes. There is Night Fever, les Bee Gees, bien sûr, dans le meilleur de Confidentiel spécial été consacré aujourd'hui à George Michael. On est ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL.
RTL.
Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
En cette année 1979, avec son copain Andrew Ridgeley, celui qu'on surnomme Yogg, se lance donc dans la chanson. À l'âge de 16 ans, il devient officiellement George Michael. Avec le nom que je portais, il y avait urgence à en changer. C'était la condition absolue pour réaliser mon rêve le plus cher, devenir une pop star britannique, confiera un jour le chanteur. Fini les reprises d'Elton John dans le métro londonien, le groupe de George Michael s'appelle The Executive et fait sa propre musique. C'est alors une espèce de boys band amateur qui mélange sans beaucoup de succès le ska et le funk. Mais George Michael et Andrew Ridgeley ne sont pas les nouveaux Beatles. Personne ne les remarque. The Executive ne se produira qu'une seule saison dans quelques pubs et dans une salle appartenant à l'église méthodiste du quartier d'East Finchley. Pour s'en sortir, George Michael travaille comme commis dans le restaurant de son père, suant sang et eau dans les odeurs de friture. C'était un bon exercice pour savoir ce que je ne voulais pas faire, raconte-t-il. Heureusement pour lui, une maquette adressée à une petite maison de disques va permettre à George Michael de ne plus jamais mettre les pieds dans une cuisine. Une chanson, Careless Whisper, suffit à déclencher la signature du tout premier contrat signé sur un coin de table dans un pub de Londres. Le nom du nouveau groupe, formé par George Michael et Andrew Ridgeley, n'est sans doute pas étranger à l'accueil de la maison de disques. Il sonne bien, il est pop et explosif. Wham va bientôt faire chavirer toute la jeunesse anglaise. Avec Wham, George Michael devient peu à peu l'idole des discothèques et des clubs londoniens. Sur scène, on oublie souvent le guitariste Andrew Ridgeley pour ne s'intéresser qu'au chanteur George Michael. Jeune homme tout juste sorti de l'adolescence, moue boudeuse, bonne joue, regard charbonneux et faussement rebelle. George Michael n'est pas encore une figure de mode, il déteste d'ailleurs son physique et ne s'aime pas, mais cette silhouette suffit à provoquer des battements de cœur, surtout quand il passe à la télé et qu'une première chanson déboule sans prévenir à la troisième place du hit parade anglais. Le succès du groupe est grandissant et bientôt phénoménal. Andrew Ridgeley connaît la musique, mais George Michael est bel et bien le cerveau du groupe. Celui qui écrit les tubes, sait capter l'air du temps et séduire les fans. Avec sa pop insolente, colorée et décontractée, Wham signe avec une grande maison de disques, remplit des salles aux États-Unis et joue jusqu'en Chine. Une seule chanson signée George Michael suffit d'ailleurs à propulser le groupe pour des années sur le devant de la scène mondiale.
Wait.
Qui a fait connaître George Michael avec cette chanson « Wake me up before you go-go ». Dans le meilleur de confidentiel spécial été, George Michael, on est ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Les premières années de George Michael, ce succès qui lui tombe dessus presque sans prévenir, on en parle sur RTL dans ce confidentiel avec vous, Éric Dahan. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour chers auditeurs.
Éric Dahan, vous avez été très longtemps journaliste à Libération, à Rock'n'Folk. Vous avez connu, côtoyé George Michael, vous nous en parlerez bien sûr dans un petit moment. Justement, cet éveil à la musique, d'où vient-il pour George Michael dans cette famille qui est, on peut le dire, à mille lieues de la pop?
J'ai envie de dire, bon, bien sûr, sa mère avait été danseuse, mais je crois que tous les enfants des années 70, tous les adolescents des années 70 ont voulu être pop star. Tout le monde voulait être Mick Jagger ou David Bowie ou Elton John ou même John Travolta dans La Fièvre du Samedi Soir. Donc je pense que c'était à l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de selfie, les gens s'intéressaient. Voilà, il y avait une vraie idolâtrie de la pop musique, et puis acheter un disque, c'était un événement. Enfin voilà, il faut replacer les choses dans son contexte.
Mais encore une fois, dans un milieu, Éric Dahan, qui ne le porte pas forcément, c'est un milieu modeste, avec un père d'ailleurs avec qui il a beaucoup de problèmes, George Michael.
Oui, éducation macho, mais enfin éducation traditionnelle, j'ai envie de dire, comme la plupart des enfants ont grandi, surtout à cette époque-là. Je ne sais pas s'il a vraiment souffert de ça, mais en tout cas, ça l'a beaucoup stimulé. Ça veut dire que le fait d'avoir un père qui lui répétait à longueur de journée qu'il était nul, eh ben, ça a créé une sorte d'envie de s'en sortir.
D'électrochoc.
Ben voilà, ça l'a stimulé. C'est un peu la technique des coachs, hein, avec les boxeurs. On leur dit, voilà, t'es nul, t'es zéro. Et comme ça les amène à se dépasser. Donc le père, contre toute attente, a en fait beaucoup fait pour la carrière de George Michael.
Alors Éric Dahan, George Michael, c'est tout d'abord Wham, et là le succès est tout de suite phénoménal.
Et effectivement, Wham, ça a été très rapide. Pour un groupe comme ça, qu'on disait un groupe de garçons coiffeurs ou d'un groupe de midinettes, effectivement, c'était un succès global, quoi. Et ça a marché tout de suite des deux côtés de l'Atlantique. Ça a marché aux États-Unis et en Europe et aussi au Japon. Des chansons comme Everything She Wants, vous l'entendiez, de Reykjavik à Tel Aviv, de Tokyo à Milan, de Rio. Enfin voilà, c'est vraiment été un succès planétaire. C'était aussi le début de MTV, donc des clips. Et c'est vrai que sur les clips, ils étaient toujours à demi nus, avec des petits maillots de bain, entouré de jolies filles, et puis c'était le soleil, c'était la plage, c'était les cafés, voilà. Donc leur image et leurs chansons ont été diffusées sur la planète entière instantanément.
Et est-ce que dès le début, George Michael a envie de devenir une star?
Je crois qu'il a envie même avant que ça existe, oui. Je veux dire, il s'est toujours vu, c'est un fou de musique pop. Ses deux idoles, c'était David Bowie et Elton John, évidemment aussi les Beatles. Et donc, oui, bien sûr, il se rêvait chanteur, star, oui, c'était une vocation de... Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que son père se moquait de lui, parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que tu vas apporter, qu'est-ce que tu es, voilà. Il devait penser qu'un musicien, ça apprend d'abord à jouer du piano ou quelque chose, c'est pas juste quelqu'un qui veut devenir une star.
RTL, confidentiel,
Jean-Alphonse Richard.
À l'aube des années 80, George Michael, tout juste 20 ans, a accédé en quelques mois seulement à la notoriété. George voulait, comme moi, devenir riche et célèbre, se souvient Andrew Ridgeley. Mais je ne pense pas qu'il voulait être une star. Il était consumé par la musique. Physiquement, George Michael n'est plus le même. Je ne me souviens pas quand j'ai décidé de devenir ce type avec des cheveux blonds, des dents blanches et portant de grosses boucles d'oreilles. Je ne sais plus si je me suis réveillé un beau matin en étant cette personne, confiera le chanteur. Hey everybody, take a look at me. I'm George Michael bat des records de vente. Mais aurait-il gravi trop vite les sommets du succès ? Dans tous les cas, il montre les premiers signes de vertige et au début de cette année 1985, il paraît carrément à bout de souffle. Le chanteur de Wham est en fait en plein doute. Le succès lui apparaît depuis quelques mois trop facile, démesuré et futile. Il a le sentiment de perdre son temps, de se laisser enfermer dans une panoplie uniforme de chanteurs pour collégiennes. L'envie de changement va se faire de plus en plus vive. Une autre préoccupation torture George Michael, une rumeur qui court et qui le désigne comme homosexuel. Si George Michael préfère secrètement les garçons, il éprouve tout le mal du monde à l'admettre. Il préfère donc éluder la question. « Il suffit d'une rumeur pour que tout le monde la croie », répond-il dans une interview. « Je ne me suis jamais intéressé à ce que faisaient les gens dans leur lit. Chacun fait ce qu'il veut dans son propre lit. Trop tôt pour révéler quoi que ce soit, il faudra attendre encore 13 ans pour que George Michael fasse son coming out. » George Michael, seul face à ses interrogations. « Ça me dérange cette image que je donne, mon allure, mes tenues. Je suis quelqu'un de connu dans les clubs, mais ça ne fait pas de moi une star », raconte-t-il. « Je suis seulement passionné par la musique. » Il insiste, « La seule chose qui me déprime est que les gens croient que je suis une star. » Wham, le groupe qui l'a en un temps record rendu riche et désiré, ne survit pas à ses états d'âme. Le chanteur connaît sa première dépression et annonce à Andrew Ridgeley qu'il arrête l'aventure. Pour leur ultime concert le 28 juin 1986, les deux amis monteront sur scène ivres et désabusés. « J'étais moralement effondré », confiera George Michael alors que sonnera dans la nuit de Wembley le glas de Wham. George Michael n'a pas encore 30 ans, mais bien décidé à mettre au rancard sa première vie. Il est temps pour lui de grandir. Du coup, sa silhouette se fait plus radicale. Blouson noir, lunettes d'aviateur et barbe de 3 jours. Même le timbre de sa voix et ses chansons changent. Il s'absente de Londres, réside le plus souvent à Los Angeles ou à New York. Pour bousculer son image, George Michael enregistre avec la grande Aretha Franklin. La diva de la soul a craqué pour ce chanteur qui ne court pas après la gloire, mais recherche la reconnaissance. La transformation est tout aussi rapide que celle qu'il avait opérée avec Wham. Les tubes se succèdent. Et même si les clips et les photos montrent toujours le chanteur entouré de filles sexy, personne ne s'y trompe. George Michael plaît certes toujours aux femmes, mais il est d'ores et déjà devenu une icône de la communauté gay. Toujours pas un mot pourtant de George Michael sur la question de ses préférences sexuelles. Une citadelle intime et cadenassée alors que l'épidémie du sida qui frappe de plein fouet la communauté homosexuelle commence à faire les gros titres. S'il est gay et qu'il le cache, c'est qu'il est fort, dit l'un de ses ex-producteurs. De quoi exciter la presse à scandale. Les tabloïds anglais avaient déjà Elton John et Lady Di dans le collimateur. Ils trouvent en George Michael une nouvelle cible. C'est le moment où sa dernière tournée, le Fave Tour, bat tous les records. George Michael, désormais presque aussi célèbre que Michael Jackson ou Madonna. Lors d'une conférence de presse, un journaliste du Daily Mirror lui demande s'il a fait un test de dépistage. Le chanteur répond par la négative. Le lendemain, le journal titre « Ma vie avec la peur du sida » par George Michael. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. Oh.
Richard.
Confidentiel.
George Michael va continuer à se mentir à lui-même. A-t-il peur du regard des autres? Sans doute. De celui de son père? Certainement. Ce père, qu'il continue à redouter même si les ponts sont depuis longtemps rompus. George Michael ne va pas pouvoir aller plus loin dans cette partie de cache-cache destinée à dissimuler un secret de polichinelle. En 1991, à 28 ans, lors d'un concert à Rio, George Michael tombe éperdument amoureux du styliste brésilien Anselmo Felipa. C'était extraordinaire, racontera-t-il bien plus tard. Pour la première fois, j'aimais quelqu'un de façon désintéressée. Mais 6 mois après leur rencontre, Felipa découvre qu'il est séropositif. George Michael voit son rêve se briser. Il échappe à cette maladie qui, dans 2 ans, va tuer son amant. Un soir, au Wembley Stadium, il chantera avec Elton John et David Bowie pour Freddie Mercury, mort du sida. Mais c'est à Anselmo qu'il adressera ce soir-là ses plus belles chansons. Après la mort d'Anselmo Felipa, tout se dérègle dans la vie de George Michael. Le succès est encore là, mais le chanteur se fait de plus en plus ténébreux, imprévisible. La mort suivante, celle de sa mère, Leslie, la seule personne qu'il avait réellement aimée et était au courant de ses secrets, le dévaste. George Michael a alors l'allure d'un zombie. « J'ai pensé à mourir », confiera-t-il au magazine GQ. « Je ne parvenais plus à écrire, j'étais complètement perdu. » George Michael, qui consommait depuis longtemps du cannabis, devient un fumeur forcené. Jusqu'à 25 joints par jour, seul moyen pour lui de pouvoir continuer à créer de nouvelles chansons. Il prend du Prozac, des somnifères, va goûter au crack et à la cocaïne. Une opération du dos ne cessera de le faire souffrir et le poussera à prendre également des doses de morphine. George Michael avait connu Lady Diana Spencer, princesse de Galles, lors d'un concert au profit de la lutte contre le sida. Elle le comptait depuis parmi ses amis. Sa mort ajoute à la détresse qu'il traverse alors. « Elle était comme beaucoup de femmes que j'ai attirées dans ma vie, je ne représentais pas une menace. » Aux obsèques de Lady Di, George Michael, en noir intégral, boucle bien taillée, apparaîtra plus seul que jamais, orphelin de sa mère et maintenant d'une princesse qui lui avait ouvert son cœur. Cette tempête qui s'est emparée de la deuxième vie de George Michael ne va jamais s'apaiser. Quelques mois après les funérailles de Diana, le chanteur est à Beverly Hills, désœuvré et perturbé. Sur un parking, il emboîte le pas à un homme qui entre dans des toilettes publiques, à la recherche sans doute d'une rencontre furtive. Mais l'homme en question est un policier en civil. George Michael sera poursuivi pour conduite obscène, condamné par un tribunal à 810 dollars d'amende et 80 heures de travaux d'intérêt général. Le policier demandera, sans les obtenir, 10 millions de dollars pour le stress provoqué par cette agression. Cette fois, inutile de se cacher. Trois jours après son arrestation, George Michael révèle sur CNN son homosexualité. L'affaire des toilettes de Beverly Hills ne va pas briser sa carrière, mais il la vit comme la plus cruelle des épreuves. « Je ne me ferai plus jamais arrêter », jure-t-il, « cela n'aurait jamais dû arriver ». Le chanteur sait que le moindre de ses pas sera désormais scruté, photographié, proie facile. Il n'a jamais su se protéger de la lumière de la célébrité et évite tant bien que mal les attaques de ces journaux qui ont brisé Diana et qui ne le lâchent pas. « Vont-ils encore chercher à m'humilier » s'interroge-t-il. « C'est bien possible. »
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
L'ascension irrésistible de George Michael et les prémices déjà de son déclin. Toujours avec nous pour parler de cette trajectoire exceptionnelle, Éric Dahan, journaliste, invité de ce confidentiel sur RTL. Pourquoi, Éric Dahan, finalement, George Michael a-t-il décidé d'arrêter Wham?
Il a décidé d'arrêter Wham pour plusieurs raisons. La principale étant que c'est lui qui faisait tout. Il était auteur, compositeur, interprète. Le potentiel de George Michael en solo était considéré comme énorme. C'est vite rendu compte du décalage entre cette image un peu ridicule de chanteur à minette et puis ses ambitions qui étaient plus grandes. C'est quand même avant tout un grand fan de Stevie Wonder, c'est un grand fan de soul music. Dès 84 ou 85, il chante en duo avec Stevie Wonder aux États-Unis dans une émission de télévision. Ils font Love is in need of love today et on se rend compte que c'est un immense chanteur soul. Il va beaucoup plus s'épanouir comme chanteur solo qu'à faire des clips ridicules, sans compter cette petite comédie de l'hétérosexualité qui est rigolote, mais enfin, je crois qu'il en a assez aussi. Il avait envie d'être respecté aussi comme chanteur et musicien qu'il était.
Vous allez le rencontrer, Éric Dahan, au cours de tournage de clips, etc.
Plusieurs fois, même, oui.
Voilà, plusieurs fois. À quoi ressemble-t-il, George Michael?
Alors, en fait, je l'ai rencontré à partir de 87, je crois, à la sortie de l'album Faith. Il avait joué à Bercy, et donc, oui, enfin, je veux dire, c'était là, il est au top de sa gloire, parce que Faith, je crois que c'est presque 20 millions d'albums vendus. Je le croisais régulièrement dans les boîtes de nuit, au bain-douche, dans des restaurants. Je le croisais aussi à Los Angeles où j'habitais, au Dôme, restaurant du show business. Donc, on parlait beaucoup de Stevie Wonder, de Gladys Knight, dont il avait repris If I Were a Woman à Wembley, que j'avais trouvé une interprétation extraordinaire. Du coup, on a sympathisé, on a un petit peu parlé. Et c'était très drôle parce que c'est vrai qu'il avait un petit côté intimidant à l'époque, parce que quand on voyait ses clips, etc., il y avait quand même une présence, un peu tourmenté, un peu. Il était très charismatique. Et je me suis aperçu que c'était quelqu'un vraiment d'adorable, de charmant, d'honnête, de gentil, de très simple, en fait, voilà. Alors, c'est l'époque où il préparait sa mutation. Il en avait assez du show business. Il voulait être respecté comme auteur, compositeur, interprète. Donc, il avait décidé que pour son nouvel album, Listen Without Prejudice, il n'apparaîtrait pas dans les clips et il n'apparaîtrait pas, il ferait pas des promotions, pas d'émissions de télé, il ferait rien du tout. Et donc, je l'ai retrouvé, je crois, un ou deux ans plus tard, au studio de Boulogne-Billancourt, où il tournait un clip avec Thierry Mugler. Et là, j'ai vu un tout autre George Michael. Il était costume noir, chemise noire, pantalon noir, cheveux courts. C'était sa mutation sérieuse, comme ça. Et donc, voilà, j'ai vu un George Michael un peu plus ombrageux, voilà.
Voilà, ombrageux et changeant. Pourquoi Éric Dahan, ce secret persistant chez George Michael sur son homosexualité?
Il a vécu dans une famille assez traditionnelle, donc dans laquelle, forcément, chez Méditerranéen, c'est pas très bien vu. Mais je crois que c'est aussi pour épargner sa mère. Il faut quand même savoir que les années 90, c'est que les années où on meurt encore du sida en masse. Donc je pense que c'est vraiment pour épargner sa famille et principalement sa maman.
Sur RTL, George Michael.
George Michael est un homme sous surveillance, partagé entre ses peurs et ses addictions. Il devient difficile pour lui d'écrire de nouvelles chansons. Sort un album de reprises.
My baby don't care for shows.
entretient des rapports compliqués avec ses producteurs et sa maison de disques. Le fil de sa géniale inspiration serait-il cassé ? J'avais perdu cette musique au plus profond de moi. C'était comme avoir perdu la foi. J'étais dans les ténèbres, concédera-t-il un jour. On voit George Michael dans des concerts de charité, courir les galeries d'art contemporain pour acquérir des tableaux, ou encore acheter pour 2 millions de dollars le piano sur lequel John Lennon avait écrit « Imagine ». George Michael en a assez du showbiz. « J'ai été très bien payé pour mon talent durant toutes ces années », dit-il. « Je n'ai plus besoin de l'argent du public. Cela m'enlève la pression d'avoir à sortir une collection de chansons tous les ans, ce qui a failli me tuer. » George Michael éprouverait presque le désir de redevenir anonyme, de retourner dans l'ombre pour profiter d'une vie tranquille, comme son complice des années Wham, Andrew Ridgeley, retraité avant l'heure dans un cottage de la campagne anglaise. Mais il est trop tard pour George Michael. En ce début des années 2000, il refait la une des journaux à scandale. C'est une silhouette titubant sous les effets de l'alcool et de la drogue que photographient le plus souvent les paparazzi. La presse relate ses exploits, effondré au volant de sa voiture à Hyde Park, surpris en pleine drague dans un quartier malfamé, emprisonné 4 semaines pour avoir défoncé une vitrine avec son Range Rover, tombé d'un véhicule qui roulait à faible allure sur une bretelle d'autoroute. George Michael, rockstar dont le nom apparaît davantage à la rubrique des faits divers qu'à celle de la musique, est un homme qui n'a plus de repères. « J'ai souffert de 12 années de dépression et de peur. C'est comme si une malédiction s'était abattue sur ma personne. Il y a eu tellement de morts autour de moi », dit-il en 2006. Mais cette malédiction, dont George Michael parle au passé, n'est pas terminée. Pour chasser le mauvais sort, il fête ses 25 ans de carrière avec une tournée européenne. S'amuse à surgir là où on ne l'attend pas, chante avec Ray Charles et monte sur scène à Londres avec Beyoncé. Remarque sa silhouette alourdie, son visage bouffi, les yeux toujours masqués par des lunettes noires. George Michael donne le change, mais il est épuisé. Le 21 novembre 2011, il s'effondre avant un concert à Vienne. Il sombre dans le coma, une pneumonie agressive. Un mois plus tard, il quitte l'hôpital, mais il apparaît affaibli, vieilli. Qu'importe, il se remet au travail, veut tenir bon, chante sur la scène de l'Opéra Garnier à Paris et réussit le tour de force d'écrire encore un album. Is that enough? I think it's over. See, everything has changed. All this hatred may just make me strong enough to walk. Anyway, they may chase me to the ends of the earth, but I've got you, babe. And they may strip me of the things that I've worked for, but I've had my say, babe. So here. I've enough of these chains. I know they're of my making. No one else to blame for where I stand. Today I've no memory of truth. Suddenly the audience is so cruel. So God, hey God, you know why I'm through. George Michael, Through, dans le meilleur de Confidentiel Spécialité qui est consacré aujourd'hui aux chanteurs britanniques. On est ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL.
Confidentiel.
Confidentiel.
Sur RTL. George Michael.
Malgré les efforts, le corps ne suit plus. George Michael est devenu une ombre fragile. Il ne se montre plus dans le quartier de Highgate, au nord de Londres, où ses fans pouvaient l'apercevoir presque chaque jour à la Villa Bianca, son restaurant favori. Pas plus de traces de George Michael dans son manoir de Goring, dont les fenêtres s'ouvrent sur les eaux de la Tamise. Absent aussi au mariage de sa meilleure amie, l'ex-Spice Girl, Jerry Halliwell. George Michael est invisible. Malade et instable, une première cure de désintoxication en Australie, une suivante en Suisse au Kustnacht Practice Relaxing, une clinique de luxe de Zurich, c'est l'une des dernières fois où les paparazzi l'aperçoivent, attablé à une terrasse en train de boire du vin blanc et fumant des cigarettes avec des amis. Le 25 décembre 2016, jour de Noël, George Michael est retrouvé sans vie dans la chambre de son manoir de Goring. C'est le dernier homme de sa vie, Fadi Fawaz, coiffeur à succès des célébrités, qu'il a découvert, allongé paisiblement dans son lit. Tout devenait très compliqué ces derniers temps, dira Fawaz. Désormais, tout est fichu. Les causes de sa mort seront déclarées naturelles, sans précision supplémentaire. Une vingtaine d'années auparavant, quand George Michael redoutait tant que le public ne s'intéresse plus à lui, Frank Sinatra, en personne, lui avait écrit « Tu ne risques rien, tu es au plus haut de l'échelle de la célébrité ». Au plus haut de l'échelle, là où justement George Michael avait depuis toujours le vertige et fermait les yeux pour ne pas tomber. Anything again. Kisses to a Child, une des chansons qui a fait le succès de George Michael dans ce meilleur de confidentiel spécial été qui lui est consacré sur RTL.
Confidentiel
sur RTL.
La vie et la mort prématurée de George Michael, épuisé, éreinté par la célébrité. On le sent bien dans les dernières années de son existence. Avec nous depuis une heure dans ce studio RTL, le journaliste Éric Dahan. Éric Dahan, j'ai envie de vous demander, de quoi est mort George Michael ? Qui l'a tué ?
Oh, je ne sais pas si quelqu'un l'a tué. Et je ne veux pas croire que ce soit... On a beaucoup dit que c'était un suicide déguisé, qu'évidemment, des années d'alcool, d'abus, de drogue... Enfin, je veux dire, il ne s'en cachait pas. Hein. Combien de fois il s'est fait arrêter par la police à Londres en train de se garer, de saccager une voiture en essayant de se garer parce qu'il était totalement défoncé, voilà, ivre-mort. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'excès, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui était si suicidaire que ça. C'est quand même quelqu'un aussi qui avait pu faire la part des choses entre sa carrière, qui n'était pas obsédé par la carrière. Il ne sortait pas un album tous les ans, ni tous les deux ans, ni tous les trois ans. Il pouvait attendre 6-7 ans pour sortir un disque. Et c'est pareil pour les tournées. Il préférait vivre sa vie que d'être une pop star. Il n'était pas en très grande forme physique, mais je ne crois pas qu'il voulait mourir non plus.
Il avait pris ses distances. Vous dites, qu'est-ce qui va rester de George Michael aujourd'hui ? C'est la période de Wham ou bien c'est l'autre George Michael, le solo ?
Si vous me demandez à moi, bien sûr que c'est George Michael le solo. Alors j'étais un peu déçu, j'avoue que quand il est mort et que je me suis retrouvé dans des émissions de télévision, je voyais que tout le monde passait les clips. Alors, moi je parlais du chanteur de soul music, du fan de Stevie Wonder, de celui qui a fait 6 reprises de Stevie Wonder, qui a fait un duo avec Aretha Franklin. Donc quand même, je parlais quand même de quelqu'un qui était l'un des plus grands performeurs de ces 30 dernières années, l'un des plus grands vocalistes. Et je voyais défiler sur les écrans de télé le garçon avec les shorts moulants argent. Et je me disais, c'est un peu dommage parce que les gens doivent se dire, mais de quoi il parle ? Est-ce que c'est pas la même personne ? Voilà. Ben, il se trouve que voilà, j'ai découvert à sa mort que pour beaucoup de gens, Wake Me Up Before You Go Go et autres niaiseries des années 80, ça avait beaucoup compté.
Éric Dahan, quelle est selon vous la chanson la plus aboutie de George Michael ? Celle dans laquelle peut-être il se révèle vraiment et puis celle qui restera ?
Oh, je crois que c'est quelqu'un qui a écrit énormément de très bonnes chansons, ou une bonne dizaine au moins. J'aime beaucoup One More Try parce que, sur l'album Faith, parce que c'est vraiment le classicisme des années 60. On dirait When a Man Loves a Woman de Percy Sledge. Donc il avait atteint cette sorte de pureté stylistique. Brother, Can You Spare a Dime, la chanson traditionnelle de 1929 ou quelque chose comme ça, sur la dépression et que chantait Bing Crosby. Ce qu'il en fait, lui, cette sorte d'épopée ultra lyrique, insensée. Et il y a quelque chose comme ça de vraiment bouleversant, quoi. Voilà. Donc moi, quand je pense à George Michael, je pense avant tout au grand chanteur qu'il a été.
Merci Éric Dahan de nous avoir accompagnés dans les pas de George Michael. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, François Touchard à la réalisation. Si vous en êtes d'accord, on se retrouve demain, 14h30, pour une course brisée, elle aussi. Mensonge et dopage, la course de Lance Armstrong.
Vous écoutez RTL.